39-45, elle n'a plus d'argent, elle est complètement paumée. On lui propose de diriger un garage réquisitionné par les Allemands. Elle se met dans cette histoire-là, elle fait du marché noir, et elle finit abattue par la résistance, tuée à la place de quelqu'un d'autre. On retrouve les cadavres des gens qui sont tués avec elle plus d'un an et demi après. Et à partir de là, va commencer à se construire une légende noire, mais très noire, autour de Violette Maurice, où on raconte que Violette Maurice était une tortionnaire de la Gestapo. Et moi, ça m'a toujours étonné. J'ai toujours pensé qu'il y avait une fabrication historique autour de ça. C'est-à-dire qu'on avait trouvé un bouc émissaire sur lequel pouvaient se rassembler toutes les choses les plus noires de cette époque. Donc, pendant deux ans et demi, j'ai enquêté. Je suis allé partout. Sur place, j'ai vu les archives, j'ai lu des livres et j'ai la conviction profonde que Violette Maurice n'a jamais été tortionnaire de la Gestapo. J'ai eu depuis un certain nombre de témoignages qui prouvent qu'effectivement c'est un mythe total. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment été exclu de la société et qui n'a jamais été tortionnaire. Donc ça c'est la ligne du livre, c'était d'essayer de comprendre comment cette femme avait vécu, pourquoi on avait fait cela. Et puis surtout de raconter la vie des premières femmes sportives, c'est-à-dire faire du sport entre 1900, avant la guerre de 14, même après la guerre de 14, mais il fallait un courage incroyable. Pierre de Coubertin haïssait les femmes qui faisaient du sport. Pierre de Coubertin, qui d'ailleurs était pro-nazi, qui a été serré la main de Hitler, eh bien, il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de Jeux Olympiques féminins. Il a fini par en avoir, mais au départ, il ne voulait pas. Parce qu'il faisait partie de ces hommes qui estimaient que les femmes devaient faire de la gymnastique ou du sport pour avoir un beau corps, c'est-à-dire avoir de beaux enfants, mais surtout pas pour la compétition et les records. Et Violette Maurice, lui, elle dit ce que je ne veux pas l'enfant et je veux battre des records.
Ouais, finalement, elle avait tout faux, mais c'est elle qui avait raison.
Elle avait tout faux, mais elle avait raison. C'est-à-dire que, comme je dis, c'était une femme libre, courageuse, qui courait trop vite pour son temps. Elle était trop en avance sur son temps.
Alors, il y avait quand même eu les mouvements des suffragettes avant. Il y avait eu quelques personnalités, je pense à Colette, par exemple, aussi.
Oui, bien sûr. Alors, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure tous ces femmes-là. D'ailleurs, elle est contemporaine d'une partie de ces femmes-là. Mais quand elle fait du sport et quand elle se révolte contre cette société, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les femmes ne votent pas et que les femmes ne peuvent pas travailler sans l'autorisation de leur mari. Donc, c'est vraiment une société qui est fermée aux femmes. Hein. Alors, bien entendu, on a beaucoup raconté sur cette libération liée à la guerre de 14, mais c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que la situation de la femme entre 1918 et 1930 n'était pas si rose que ça. Les femmes ne jouissaient pas d'une liberté totale, et surtout lorsqu'elles étaient lesbiennes. On acceptait les garçons. Mais les garçons, c'est un épiphénomène, c'est quelques quartiers, c'est une mode, c'est des cabarets, quelques chanteuses, Suzy Solidor par exemple. Mais dans la majorité de la population, une lesbienne était mise au banc de la société. Elle était lapidée, on ne l'acceptait pas.
La femme qui court, donc Michel, La femme qui court, Gérard de Cortance, c'est aux éditions Albin Michel. Et puis un autre regard sur une époque et sur une femme surtout. Merci à vous.
Car toute cette génération qui est là en 1830 a été soit directement, soit par la génération de ses parents, touchée par la terreur. Et très vite, la bourgeoisie, même la bourgeoisie libérale, même Victor Hugo, même les écrivains, vont se trouver un refuge dans la personnalité de Louis-Philippe. C'est-à-dire un roi constitutionnel, un roi libéral, on dirait un roi de gauche, mais un roi quand même.
Alors justement, vous parlez des écrivains. L'importance des écrivains, c'est Stendhal, mais aussi d'autres, Hugo, on le citait, c'est Dumas également. C'est toute cette période littéraire qui est foisonnante et qui puise complètement son inspiration dans la vie quotidienne.
Non, mais cette révolution est la révolution du romantisme. Est-ce qu'on imagine hein, je le dis à vos éditeurs, que en cette fin de juillet 1830, je dis bien cette fin, c'est-à-dire entre le 25 juillet et le 30 juillet, Stendhal est en train de terminer Le Rouge et le Noir et Victor Hugo commence Notre-Dame de Paris. Est-ce que il y a eu un moment dans notre culture et notre littérature où autant de génies se sont retrouvés à écrire côte à côte? Et il n'y a pas que. Dans cette révolution, vous voyez arriver Chateaubriand, vous avez Vigny, vous avez Dumas. Donc tous ces grands noms du 19e siècle qui à l'époque sont, à part Chateaubriand qui est déjà très célèbre, mais sont de jeunes auteurs. Et ce qui était très intéressant, c'était de les voir vivre cette révolution, à laquelle, en réalité, il faut être très franc, ils ne comprennent rien. Stendhal, par exemple, est un libéral. Stendhal déteste les Bourbons. Stendhal, il devrait être enchanté par cette révolution. Eh bien, il la méprise. Il la méprise pourquoi ? Ben d'abord parce qu'il est pris dans son livre, et que lui, ce qui l'intéresse, comme tout écrivain, c'est d'abord de finir son livre et pas de faire la révolution. Et puis, disons-le, qu'il rencontre quelques problèmes de panne sexuelle avec sa maîtresse italienne. Et ça l'obsède beaucoup plus que la Révolution.
Alors quel rôle Talleyrand a joué ? On le sent, il est présent, il est intriguant, comment il se situe ?
Talleyrand a un rôle essentiel. Talleyrand, c'est l'homme qui a résisté à tout le régime. C'est le grand homme politique du début du 19e siècle. C'est l'homme qui, a lâchant Napoléon, a laissé Napoléon s'effondrer. C'est l'homme qui a permis le congrès de Vienne. Eh bien, il va, comme à son habitude, tirer toutes les ficelles. Il est rue Saint-Florentin dans son hôtel. De là, il voit les Tuileries évacuées par l'armée royale. Et il se tourne avec ce flegmatisme de Talleyrand. Il se tourne vers son secrétaire, auquel il est en train de dicter son courrier. Il dit « Monsieur, vous noterez qu'aujourd'hui, à 12h05, le roi de France a cessé de régner. » Donc, il a, voilà. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son rôle de diplomate. Et comme il y a tout le corps diplomatique qui est présent, parce que Charles X a oublié de convoquer à Saint-Cloud les ambassadeurs, et il va obtenir de l'ambassadeur d'Angleterre et de l'ambassadeur de Russie que les puissances européennes n'interviennent pas en France si jamais il arrive à placer Louis-Philippe sur le trône.
Merci Camille Pascal. Donc ce livre, je rappelle le titre, L'été des quatre rois, c'est aux éditions Plon, prix livre couronné d'ailleurs par le Grand Prix de l'Académie française.
Ah oui, ça j'avoue que ça a été un moment, d'ailleurs je vais bientôt aller le recevoir sous la coupole. Le Grand Prix du roman de l'Académie française est un peu moins connu du grand public que le Prix Goncourt, même s'ils sont nés exactement au même moment. Mais quand vous regardez la liste des prédécesseurs et que vous y retrouvez Mauriac, Saint-Exupéry, Bernanos, vous ne pouvez qu'être impressionné.